BFM Bourse, le club de la bourse.
Nos experts du club ce soir, ils viennent de nous rejoindre à l'instant. Sébastien Lalevée, directeur général de Montpensier Arbevel. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir.
Bienvenue Geoffroy Lenoir aussi avec nous, directeur de la gestion collective d'Ophi Invest AM. Bonsoir Geoffroy.
Bonsoir.
On est ravis l'un et l'autre de vous retrouver sur notre plateau. On parlera bien sûr dans un instant de la Fed, de SpaceX à nouveau, des perspectives de vos choix d'allocation et d'arbitrage avant l'été et avant le deuxième semestre. Mais d'abord, quand même, est-ce qu'il y a une alerte, là, un signal BMW qui annonce un profit warning très important en justifiant ce profit warning par le ralentissement chinois et la guerre en Iran? Il y a trois ans, en 2023, la marge bénéficiaire de BMW atteignait 10%. Pour cette année, il craint une marge bénéficiaire de seulement 1%, divisé par 10 en 2-3 ans à peine, du fait entre autres du conflit en Iran. Est-ce que c'est un signal? Est-ce que c'est le signe annonciateur de ce que pourraient annoncer d'autres entreprises du fait de ce conflit en Iran quand les publications vont arriver dans un mois? Sébastien.
On savait en 2023 que la marge de BMW était pas pérenne en fait, hein, parce qu'il y avait, c'était post-Covid, il y avait des manques de produits qui faisaient qu'ils vendaient surtout les produits les plus chers. Donc en fait, il y avait une marge qui était entre guillemets exceptionnelle. Le pari de l'auto allemande, ça a été la Chine pendant longtemps. Bon, manque de bol, les Chinois aujourd'hui sont un peu autonomes en voiture, on le voit avec BYD. La Chine aussi s'est un peu refermée sur les marques occidentales. On sait que mon pari depuis longtemps, c'est que dans la notation sociale, je pense que le Chinois qui achètera des produits de l'Ouest verra sa notation à terme baisser. Donc je pense qu'il faut faire un trait sur la croissance en Chine pour l'automobile allemande. Donc ça fait partie d'un réajustement malheureusement qui va pas s'arrêter.
On peut développer ce que vous venez de dire, la notation des acteurs chinois qui
non, la notation sale des Chinois. Donc on le sait, hein, c'est pas Black Mirror en vrai en fait, hein. La notation sociale existe en Chine. Et moi je pense profondément que assez rapidement le fait d'acheter des produits européens ou enfin de l'Ouest sera mal vécu, sera mal noté. Donc je pense que structurellement le luxe en Chine va baisser au profit, on l'a vu, hein, au profit des marques locales. Et pour les voitures c'est pareil. Donc oui, le ralentissement chinois il va continuer et sans toutes les catastrophes commencent par ralentissement. Donc oui. Donc non, il y a un changement structurel, on le voit sur
toutes les pentes ne mènent pas à une falaise heureusement, mais oui. Oui. Non, toute falaise démarre par une inclinaison.
Par une inclinaison, oui. Donc non, malheureusement pour l'auto, l'industrie, enfin pour l'auto allemande.
Mais vous pensez,
l'âge d'or est derrière.
Alors là, on est un peu peut-être dans la science-fiction. Je sais pas. La notation sociale, elle existe bel et bien d'ores et déjà en Chine. Vous pensez que demain, un Chinois qui utilisera par exemple des produits cosmétiques L'Oréal, qui mise beaucoup sur la Chine, sera sanctionné et verra sa notation sociale dégradée?
C'est moins ostentatoire. Hein, un rouge à lèvres. C'est moins marqué « not made in China hein. », mais une voiture, ça l'est carrément même. Donc, ouais. Et un sac Vuitton aussi. Donc c'est pour ça que je pense que les années 2025, 2026 et après ressembleront pas pour ces industries-là aux années 2010 jusqu'à 2020, jusqu'au Covid, en fait, clairement pas.
C'est Black Mirror, hein, pour les fans de la série, on y est presque. Vous accordez beaucoup de crédit à ce scénario-là ou pas, Geoffroy, là, dans le rapport à la Chine?
Oui, le rapport à la Chine, ce qui est sûr, oui, ça fait longtemps qu'on le dit, hein, c'est que les Chinois se focalisent davantage sur les biens de consommation qui sont produits en Chine, et notamment dans le secteur du luxe, et c'est sûr qu'il y a cette volonté d'acheter chinois, et c'est vrai que ça peut peser sur certaines valeurs du secteur du luxe. Alors après, là, concrètement, ça se voit pas forcément ces derniers jours. On a plutôt ce thème de rotation qui peut revenir. On en reparlera peut-être tout à l'heure, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on parlait du profit warning sur BMW. Ce qui va être vraiment intéressant, c'est de rentrer dans cette phase de publication de résultats, donc qui va arriver très bientôt, hein, dans 3-4 semaines, hein, je pense. On touche au bout. Ça va être l'indicateur principal à suivre pour les marchés actions, avec justement des résultats qui vont peut-être intégrer davantage ce qui s'est passé au niveau de la fermeture du détroit d'Ormuz et du conflit en Iran.
C'est vrai qu'on a 3-4 semaines d'avance, mais est-ce qu'il faudra la craindre un tout petit peu cette saison de résultats, dans la mesure où, oui, cette guerre se traduira plus concrètement dans le bilan financier des entreprises qu'au premier trimestre, là. Sur le premier trimestre, on disait, mais formidable, c'est vrai, hein, formidable les résultats aux États-Unis, formidable la hausse des bénéfices pour les entreprises européennes, quelle agilité, etc., etc., et on a justifié ainsi les valorisations de marché. Est-ce qu'au deuxième trimestre, on risque un retour de bâton parce que justement la guerre en Iran, là, nous mettra devant l'addition quand même, Sébastien?
Le résultat du premier trimestre ont été d'autant plus bons qu'on les attendait pas bons du tout.
Ouais.
Donc il y a eu cet élément-là hein, qui psychologiquement a beaucoup. Alors là, a priori le conflit est en train et le détroit doit réouvrir en fin de semaine. Enfin en théorie, là, ça aurait dû être le cas plein de fois déjà. Donc la chose, les publications seront vues très différemment si dans un mois on pourra se dire que ce qui s'est passé au T2 est terminé, on est passé à autre chose. C'est la lecture sera fondamentalement différente, à mon avis, en fonction des 2-3 prochaines semaines et de la réalité de la paix et de la réouverture du détroit, parce que le marché considérera que c'est et pourra passer à autre chose, comme un événement qui finalement est déjà dans le passé, et comme le marché est constamment dans le futur entre guillemets, cet élément-là sera moins important que dans l'hypothèse où pour la 40e fois. La paix n'est pas véritablement la paix. Ou là, évidemment, ça commence, ça pèsera beaucoup plus.
Oui, il faudra l'épreuve de la paix dans la durée, effectivement. Ça impactera la vision des entreprises pour la suite, les perspectives qu'elles annonceront. Patrick Pouyanné lui-même, le patron de Total Energy, se montre hyper prudent sur la réouverture du détroit d'Ormuz, qu'on espère à partir de vendredi, donc puisque l'accord doit être signé vendredi entre Américains et Iraniens. Patrick Pouyanné s'est exprimé tout à l'heure devant les parlementaires à l'Assemblée. Voilà ce qu'il a dit. Il a dit « Nous avions 11 pétroliers bloqués dans le Golfe, on a réussi à en sortir 3, on va tous les sortir. En revanche, pour les ramener dans le golfe Persique ensuite, on va y regarder à deux fois, on va regarder si la paix est vraiment là. » Et il a dit, même si le détroit rouvrirait là complètement vendredi, il faudrait attendre au moins 6 mois à 1 an pour un retour à la normale, pour ce qui concerne en tout cas les flux pétroliers. Donc tout ça prendra du temps. L'inflation aura peut-être le temps de continuer d'infuser. Peut-être les prix du pétrole ne reculeront-ils plus beaucoup ? Ils ont déjà bien reculé, on est à $80.
Une des raisons pour laquelle ils ont reculé aussi, ou ils ont moins monté qu'on aurait pu l'attendre, en fait, déjà que par rapport au précédent choc pétrolier, le poids réel du pétrole dans le mix énergétique est très inférieur, ouais. Très clairement. Mais il y a aussi eu le fait qu'en réalité, la demande était inférieure à ce que les gens attendaient. Donc il y a un effet demande non là qui a aussi joué sur le prix du pétrole.
Et
là,
la demande chinoise en particulier.
Exactement. Parce qu'eux, ils ont des mois de stock en fait. Et les Chinois, comme ils ont tellement de stock, ils sont assez malins dans leur capacité à être à acheter. Donc le pétrole à $100, ils n'étaient pas présents en fait. Donc ça fait des millions de barils qui n'étaient pas à la demande en fait.
Et tout ça, vous êtes dans la même position que Kevin Warsh, finalement, ce soir, le patron de la Fed, qui va tenir sa première conférence de presse et va devoir arriver à parler de tout cela tout en traçant une ligne, une directive, en tout cas une trajectoire. Comment est-ce que vous anticipez la suite sur le pétrole? Est-ce que si le détroit d'Ormuz rouvre, forcément, Geoffroy, le pétrole va continuer beaucoup reculer? Ou au contraire, tout ça prendra du temps, comme l'expliquait Patrick Pouyanné, et on est déjà au point bas qu'on pouvait espérer là?
Alors sur les prix du pétrole, c'est quand même très difficile comme exercice en termes d'anticipation à ce moment-là. C'est vrai qu'on a cet accord qui doit être signé vendredi. Alors il y a quelques points qui ont été déjà divulgués. Maintenant, ça reste quand même assez indécis en termes de vraiment propositions concrètes. On parle notamment de plans de reconstruction de 300 milliards.
Oui.
C'est vrai que ça, ce sont des points qu'il faut quand même clarifier, parce qu'on ne sait pas forcément d'où viendraient ces financements. C'est vrai que tout ce qui est autour de cet accord est forcément quelque chose de positif, c'est relayé comme étant positif de la part des dirigeants du monde entier. Maintenant, le marché a eu tendance, on va dire, à s'accoutumer à ce type de nouvelles et à essayer de prendre les choses avec un peu de distance. On l'a vu dans la réaction du marché en début de semaine, quand il y a eu cet accord annoncé toujours de façon très très forte de la part de Donald Trump en disant que le pétrole pourrait couler à flot. On a eu une réaction de marché finalement assez mitigée. C'est surtout le prix du pétrole qui a baissé. Et donc ça, c'est une première réaction. Et pour revenir à la question, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a déjà eu cette correction qui a été faite. Maintenant, il faut voir concrètement, est-ce que les bateaux repassent? Est-ce que les flux reviennent régulièrement? Je pense que le patron de Total et Total Energy est bien placé pour avoir une vision sur les flux qui vont revenir. C'est vrai qu'on peut pas se dire que les flux vont repartir directement, très rapidement, comme c'était avant le début du conflit. On devrait avoir une réouverture graduelle. C'est vrai que la plupart des institutions comme l'OPEP estiment que ça va prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois, voire 2027 pour avoir un retour à la normale.
Ça. Donc des bateaux qui sortent du Golfe via Ormuz, on en verra plein. En revanche, des bateaux qui prennent le risque de revenir dans le Golfe via Ormuz pour ensuite peut-être se retrouver à nouveau bloqué une deuxième fois, on en verra peut-être un peu moins.
La réalité, c'est que le ex-post, tout le monde dit que c'est un très bon accord. La réalité aujourd'hui est moins bonne qu'il y a 6 mois. déjà. Donc revenir à l'origine serait déjà une très bonne chose. Et en fait, concrètement, là, on parle d'un droit de passage et ainsi de suite. Oui. Donc la situation, elle est moins bonne qu'elle l'était il y a 6 mois. Et pour finir sur BMW, donc moi, la conclusion, je dirais que c'est non, c'est pas le canari dans la mine. Je pense que dans la baisse de BMW, notamment en Chine, il y a beaucoup d'éléments qui sont spécifiques à l'automobile et à BMW, plus qu'un indicateur de deuxième trimestre pas bon pour les publications.
Dans quelques minutes, on parlera de SpaceX qui recule pour la première fois de son histoire en bourse. Ouais, moins 5% aujourd'hui. C'est une baisse. Hein. Est-ce que l'histoire est déjà finie? Non, bon, je plaisante, bien sûr. On a gagné 50% en 3 jours. Mais on en parlera en détail parce que vos avis sont relativement tranchés et assumés sur SpaceX. Ce sera très intéressant. D'abord, vous êtes Kevin Warsh. Vous ne le saviez pas, mais voilà, on va vous mettre dans la peau de Kevin Warsh ce soir. Première conférence de presse, donc en tant que président de la Fed, ce sera à 20h30. À votre avis, qu'est-ce qu'il va devoir justifier tout à l'heure, Kevin Warsh? Une baisse de taux, une hausse de taux ou ce sera un statu quo de la part de la Fed? Geoffroy.
Alors, mon point de vue, il devrait faire un statu quo. Hein. Donc après, il n'est pas tout seul à décider. Il y a un conseil, il y a des gouverneurs, il y a un vote qui doit être fait. On aura aussi des données intéressantes avec les fameux dot plots, voir s'il y a des questions dessus. Et sur le fait qu'il n'y aura plus le vote de M. Miran, hein, mais donc il devrait peut-être y avoir le vote de M. Kevin Warsh. Donc on pourrait tout de suite savoir quelle est pour lui ses anticipations.
Ouais. Et s'il veut bien jouer le jeu des dot plots, parce qu'il n'aime pas, il aime pas cet exercice. Ouais.
Donc c'est vrai que ce qui va être intéressant, c'est de voir vraiment comment est-ce qu'il va appréhender cet exercice-là. On sait que par rapport à ce qu'il a déjà dit précédemment, il veut donner un petit peu moins d'informations au marché, hein, donner un peu moins de visibilité. Donc ça veut peut-être dire passer par moins de meetings, moins de réunions de la Réserve fédérale américaine, moins de questions-réponses, peut-être un peu moins d'informations lors des communiqués de la Réserve fédérale américaine. Donc tout ça, ça va être intéressant à analyser. Maintenant, aujourd'hui, compte tenu du contexte, je pense que ça va être assez difficile de monter les taux, les baisser encore plus. Dans le marché, on a encore un petit peu d'anticipation de hausse de taux d'ici la fin de l'année. C'est assez marginal, un peu plus encore sur 2027, mais on n'a pas forcément de biais très marqué dans un sens comme dans l'autre.
Alors, franchement, moi, Sébastien, vous dites à l'instant, Geoffroy, franchement, c'est compliqué de relever les taux, même si le marché s'y attend en partie d'ici la fin de l'année. Donc, ça veut dire qu'une partie du marché s'y attend. Même si les prix à la production progressent de 6,5% aux États-Unis quand même sur le mois de mai. L'activité est forte, l'emploi est reparti aussi. On a des créations de postes à quasiment 200 000 à nouveau. Et vous dites, malgré tout ça, c'est compliqué de relever les taux. On peut les relever, les taux. C'est interdit de le faire désormais, enfin, parce que le marché s'y attend qu'à moitié, il ne faudrait pas le froisser trop vite. Ou au contraire, pour asseoir sa crédibilité face à cette inflation, il aurait intérêt à promouvoir une hausse de taux, Kevin Warsh. Sébastien.
Déjà, s'il les monte, il y a son patron qui sera énervé. Alors, je sais qu'il est indépendant, mais en fait, il a été un peu nommé par Donald Trump, hein, quoi qu'on en dise. Mais moi, j'ai une vue un peu différente, parce que déjà, sur l'emploi, on ne disait pas la même chose il y a 2-3 mois. La réalité, c'est que l'emploi, il a été aussi impacté par le fait qu'il y a beaucoup d'immigration qui a été attaquée sévèrement aux États-Unis depuis plusieurs mois. Et donc c'est un peu plus compliqué que ça, à mon avis. Mais si vous regardez l'économie américaine en dehors des CAPEX-IA, de tous ces éléments-là, si vous enlevez l'IA, les CAPEX-IA, il n'y a pas de croissance de résultats aux États-Unis. En tout cas, il n'y a pas de révision en hausse de croissance de résultats depuis 18 mois. Donc en réalité, une fois encore, moi c'est à chaque fois mon créneau quand je viens ici, les indices ne sont pas la réalité économique et les fondamentaux économiques, quoi qu'on en dise, ils sont évidemment pas mauvais aux États-Unis, mais ils sont boostés à la testostérone de la dette et l'IA en ce moment. Et si vous retraitez ça, la situation elle est un peu plus complexe à mon avis. Bon évidemment en Europe, les remontées étaient une ineptie, donc on verra. Donc il est effectivement dans une situation.
Ouais, mais hier Christian Mito nous disait ça fait des années que l'inflation est au-delà des objectifs de la Fed. Donc ne serait-ce que pour asseoir sa crédibilité, première réunion de politique monétaire de l'ère Kevin Warsh, pourquoi pas relever les taux, mais peut-être même pas de 25 points de base, 15 points de base, juste pour le symbole, la crédibilité, juste ça, 15 points de base.
Parce que le gars a été nommé par Donald Trump, donc il dit voilà, maintenant que je suis président, je suis indépendant et je fais ce que je veux.
Et parce qu'il y a de l'inflation.
Oui, mais
et que l'emploi va bien.
C'est une inflation embarquée, c'est une inflation liée aux matières premières, c'est une inflation à ce genre de choses.
Mais on l'avait déjà avant la hausse des cours du pétrole, cette inflation. C'est-à-dire que le pétrole vient surajouter à une inflation qui n'avait pas complètement disparu du tout, qui était restée largement au-delà des objectifs de la Fed, quand même, avant même la hausse des cours du pétrole. C'est pour ça que la question, elle peut quand même se poser.
Non, on a déjà une inflation qui est sortie à 4,2% au mois de mai, hein, donc révisée en hausse. ouais. avec principalement les facteurs énergétiques qui contribuent à cette hausse. Maintenant, c'est intéressant de noter aussi que dans le discours de Kevin Warsh, il va s'intéresser davantage, on va dire, à la composante PCI de l'inflation, la partie moyenne du PCI, et même une inflation tronquée. Donc, il y a vraiment une méthodologie, on va dire, Kevin Warsh, qui peut être intéressante à regarder et qui ressort, qui fait ressortir l'inflation aujourd'hui sur des niveaux de 2,3%. Donc, finalement, pas tellement au-dessus de la cible de la réserve fédérale.
C'est-à-dire qu'il veut changer le thermomètre, ne plus baser les analyses de la Fed et ses choix de politique monétaire sur l'inflation telle qu'on la connaît, telle qu'on a l'habitude de la voir mise en avant par la Fed, mais d'autres points d'inflation qui justifieraient des baisses de taux peut-être, une politique plus accommodante,
voilà,
des points d'inflation qui montreraient une inflation plus faible qu'on ne la voit aujourd'hui à travers les appareils et les
instruments. Il faut voir quel est le baromètre. Qu'est-ce qu'il prend comme outil pour mesurer les risques inflationnistes ? Et c'est vrai que par rapport à ça... Aujourd'hui, on peut imaginer que dans le discours de Kevin Warsh, il n'y a pas forcément de quoi justifier une hausse de taux. Alors voilà, il n'est pas tout seul, encore une fois. Il y a plusieurs gouverneurs qui vont décider. Mais on va dire que l'inflation, si ça reste temporaire, passager, par rapport à tout ce qu'on vient de dire sur le détroit d'Hormuz notamment, peut-être qu'il serait plus prudent de prendre le temps d'attendre. Et si on se remet dans le contexte en début d'année, on avait plutôt 2-3 baisses anticipées. Maintenant, ça paraît trop loin. Hein. Il y a un parcours qui a été fait. On n'est plus dans le même contexte. Mais aujourd'hui... si on regarde les anticipations de marché, on a même plutôt des baisses qui sont anticipées en 2027.
Ça, vu la dette américaine et vu le déficit budgétaire, un peu d'inflation, c'est pas si mal pour eux en réalité.
Oui.
Donc, si on prend un point de vue strictement américain, oui. Les objectifs de... On s'en fout en vrai. Je pense qu'il y a des éléments macroéconomiques qui sont beaucoup plus importants.
Oui, oui. L'inflation pour éponger la dette.
Ouais, moi, ça me paraît pas si idiot que ça, en fait. Oui.
Donc, mais on en est quand même là, à savoir, on hésite à remonter les taux du côté de la Fed. En revanche, en Europe, où il y a moins d'inflation et moins de croissance, on relève les taux. Là, la BCE l'a fait, on aura peut-être même d'autres hausses de taux encore à venir.
C'est une erreur de politique monétaire flagrante, pour des raisons idiotes, au même titre que Trichet avait augmenté les taux avant, en 2008, sur la base d'une inflation de second tour, qui, en fait, a précédé une crise économique majeure. Donc les erreurs de politique monétaire, c'est déjà arrivé dans le passé, on l'a vu à nouveau, donc c'est une vision dogmatique très allemande du sujet, donc c'est une erreur.
Oui, alors que la Banque de France, par exemple, a baissé drastiquement sa prévision de croissance pour la France.
0,9 à 0,5, oui.
Exactement, on était à 0,9% d'attente de croissance cette année, on passe à seulement 0,5, elle divise quasiment par deux sa prévision de croissance. Et la BCE, elle relève ses taux. Oui. Mais il y a d'autres pays où la croissance est plus forte, où l'inflation est plus forte. C'est ça qui est compliqué pour la BCE. C'est que oui, vu d'un point de vue français, c'est compliqué de comprendre cette hausse de taux, mais peut-être d'un point de vue espagnol, on la comprend un peu mieux.
Oui, elle est basée sur quoi, la croissance espagnole ?
Hausse de SMIC, oui.
Elle n'est pas non plus si massive que ça. Hein. Donc en réalité, je trouve qu'une nouvelle fois, c'est une erreur de politique économique, ouais. Comme une erreur d'appréciation européenne de la macroéconomie, de la géopolitique et de plein de sujets. Enfin, c'est pas nouveau et... Ça explique pourquoi on a un déficit de multiples en Europe et un déficit de croissance. Hein, je pense.
Et alors, dans l'échelle des erreurs de politique monétaire, là, dans le musée des horreurs, vous la placez où, cette erreur de politique monétaire, parmi les pires ou anecdotique ?
Si on est un peu cynique, on dira dans la continuité du reste. De l'AI Act et puis toutes ces histoires-là, c'est rien d'étonnant, en ligne avec les attentes.
Geoffroy.
Alors, c'est vrai que c'est pas une ou deux hausses qui change vraiment, on va dire, la politique monétaire et l'impact qu'elle peut avoir sur l'économie. Maintenant, c'est vrai que Christine Lagarde a été assez claire sur l'explication de pourquoi elle a monté ses taux, pourquoi la BCE a monté ses taux. Maintenant, c'est vrai qu'elle a pas vraiment indiqué que c'était une hausse préemptive de prudence par rapport au prix du pétrole notamment, que c'était plutôt structurel. Et c'est vrai qu'on le voit dans les chiffres notamment de croissance des salaires qui ont été un peu révisés à la hausse. Donc c'est vrai qu'il y a des arguments que la BCE peut justifier et qui peuvent s'entendre. Et c'est vrai que ce qui est plus peut-être étonnant, c'est qu'on a l'impression qu'il y a encore une deuxième hausse qui est plutôt bien anticipé, qui est plutôt bien ancré de la part de la Banque Centrale Européenne, qui pourrait avoir lieu dès le mois de septembre, donc pour nous amener à 2,5 sur le taux directeur de la Banque Centrale Européenne. Donc c'est vrai qu'on a un contexte assez inflationniste en Europe, mais qui peut être temporaire. Après, peut-être que la BCE, si on voit bien que ces pressions inflationnistes sont temporaires, pourra rebaisser derrière, on pourra juger si oui. C'était une erreur magistrale de politique monétaire ou pas. Mais c'est vrai que là, aujourd'hui, je pense que Christine Lagarde et la BCE veulent éviter d'être accusées de réagir trop tard.
Oui, mais je relis tout ce que vous nous dites, Geoffroy, et en gros, vous attendez pourquoi pas des baisses de taux de la BCE après les hausses de cette année en 2027, des baisses de taux, et de la part de la Fed aussi, pourquoi pas des baisses de taux. C'est-à-dire qu'en 2027, ce serait embrassez-vous Folleville en matière de politique monétaire. On a des marchés qui sont au plus haut historique aujourd'hui, on n'a rien vu encore. En 2027, avec les baisses de taux, ce sera encore plus haut les marchés.
Encore une fois, je pense que les banques centrales sont un peu comme les investisseurs. Hein. Elles suivent les évolutions des données et de ce qui se passe aussi sur le front du Moyen-Orient. La signature est peut-être prévue pour vendredi, mais d'ici... il va y avoir 2 mois pour discuter sur les conditions, sur l'utilisation de l'uranium enrichi en Iran, on n'est pas complètement sorti du conflit. Je pense que les investisseurs sont prudents. Je pense que les banques centrales sont prudentes. On a toujours 2 scénarios. Un scénario central un petit peu plus positif, où on a cette inflation qui peut revenir sur des niveaux un peu plus tolérables et en ligne avec les objectifs des banques centrales. Mais on a toujours à côté un scénario alternatif qui peut revenir, qui est moins positif et sur lequel on n'a pas de certitude encore à l'instant.
Enfin, sauf que, Sébastien, si cet épisode d'Hormuz n'est pas terminé et que il continue ou il se durcit, l'Europe rentre en récession. Tout simplement, en réalité. Hein. Donc là, on va se retrouver avec potentiellement une récession sur les bras. Donc vous serez banquier central, vous aurez monté les taux. Et vous aurez une récession. Donc je ne suis pas certain que ça soit une idée excellente en réalité.
Et on pourrait avoir la poursuite du ralentissement européen, mais la hausse des marchés actions. Le Stoxx Europe 600 en début de semaine était au plus haut historique malgré le ralentissement économique.
Après, c'est une question d'indice, c'est une question de construction d'indice, et ainsi de suite. Tu as cet élément-là aussi à avoir. Et puis, le fait que ce soit le Stoxx l'Eurostock 50 ou beaucoup de sociétés qui composent des indices en Europe sont des boîtes dont les sièges sociaux sont en Europe, mais ont une activité mondiale. Pas oublier ça, hein. C'est que ce sont des baromètres aussi de l'activité mondiale et aux États-Unis et en Asie et ainsi de suite. Donc c'est pas, ça reflète pas l'économie locale uniquement.
Hein. Dans 7 minutes, la clôture, on entre dans la dernière ligne droite de cette séance. On accélère, on continue de la vivre, de discuter ensemble. Le CAC 40 perd 0,2%. À 17h28, Lanterne Rouge et Essilor Luxottica, malgré un accord apparemment avec AMD pour les lunettes dotées d'intelligence artificielle, toujours Essilor perd 4%. Et puis à la hausse, à l'inverse, Schneider Electric, le grand, toujours porté par les data centers. C'est l'IA, toujours. Le grand gagne en ce moment 4%, Schneider Electric gagne 2%. On n'a pas du tout parlé de tech encore. Pourtant, c'est peut-être plus important encore que les politiques des banques centrales, là, ce qui se passe sur la tech, cette révolution industrielle qu'on est en train de vivre. C'est ce qui porte les marchés, c'est ce qui fait la pluie et le beau temps. Vous êtes à l'aise sur la tech en voyant les montagnes d'investissement, les SpaceX qui arrivent aussi sur le marché, les levées de capitaux de la part d'Alphabet, 85 milliards de dollars. Nvidia, tiens, qui a annoncé une émission obligataire de 25 milliards. Enfin, ça continue. On reste à l'aise avec tout ça ou on commence à vraiment vouloir fuir le segment et s'intéresser à autre chose?
Déjà, en fait, en réalité, les énormes capex des hyperscalers, qui étaient attendus à 800 milliards cette année et pas loin de 1000 milliards l'année prochaine, au début ont été financés beaucoup par l'arrêt des rachats d'actions, donc qui s'est transformé en capex, ce qui, en tant que gérant ou analyste financier, est plutôt une bonne idée en création de valeur. En réalité, sur les gros hyperscalers, on est à peine à 0,5 fois les EBITDA en dette. Donc, il n'y a pas de sujet de dette pour ces gens-là, en réalité. Donc, certes, ils commencent à faire un peu de dette, mais il n'y a pas de sujet d'endettement. Donc, il ne faut pas non plus raconter n'importe quoi en disant c'est une catastrophe, parce que ça n'en est pas une, en vrai. Donc, le sujet, ce n'est pas là. Le problème, s'il y en a un, il n'est pas là du tout, loin de là même. Donc, le sujet, il est, à mon avis, hein. Et il n'y a pas de problème de valorisation sur les Amazon, sur les Google, sur les Nvidia. Il y en a un sur SpaceX, mais sur les hyperscalers, la plupart, il n'y a pas de sujet de valorisation. On est en multiple d'EBITDA sur Nvidia un peu plus de 20 fois. Mais ce n'est pas du tout, n'importe quoi.
Donc la question qui demeure, c'est le retour sur investissement, tous ces investissements.
Le vrai sujet, c'est... bientôt, on va commencer à parler de tokenomics. Donc, c'est la gestion des tokens, savoir combien ça coûte. En réalité, il y a peu de gens qui ont véritablement utilisé l'IA à l'échelle industrielle. Le vrai sujet, c'est quand on revoit Uber qui dit « j'arrête parce qu'en 4 mois, j'ai mangé la totalité de mon budget token ». Microsoft qui dit « j'arrête Anthropic parce que ça coûte trop cher quand j'arrête d'être au forfait et que je passe à la consommation ». La réalité, c'est tous les gens qui utilisent Anthropic et Claude aujourd'hui, ils sont sur des abonnements. Les abonnements sont sponsorisés. Aujourd'hui, cette industrie a monté sur le sponsoring qui est financé par les VC, par les hyperscalers. Mais le consommateur, pas tellement, en fait. Et à partir du moment où les entreprises ont vraiment consommé et vont vraiment se poser la question de combien ça coûte, quel est le ROI, et ben on va voir comment ça se passe.
Donc c'est même une adoption de l'IA beaucoup plus lente que ce qu'on imagine.
Déjà au niveau industriel,
du fait du prix des tokens.
Mais non, c'est pas ça, c'est que pour vraiment utiliser l'IA, il faut une infrastructure informatique qui permette de le faire. Et la plupart des sociétés ne l'avaient pas, de toute façon. Donc en réalité, il y a un délai. Il y a un délai véritable entre le fait de parler d'IA et le fait de l'adopter vraiment en entreprise de façon structurelle qui demande de l'investissement informatique et du temps et de la culture d'entreprise.
C'est bon, ça fera monter ces valeurs liées aux services informatiques ou au hardware informatique aussi.
Anthropique se transforme aussi en boîte de services informatiques, ce qui est assez drôle parce que les Capgemini, les Sopra ont été catalogués comme losers de l'IA et en même temps, les OpenAI et les Anthropique créent des structures pour faire adopter leurs outils. Donc l'histoire loser de l'IA est pas claire, mais non, le vrai sujet c'est comment ces modèles économiques vont évoluer, et en sachant que les modèles chinois, les modèles open source sont 10 à 25 fois moins chers, que Nvidia a aussi lancé des modèles open source très efficaces. Donc moi le sujet sur l'IA, c'est à un moment on n'a pas toujours besoin d'une Ferrari. On peut aller chercher son pain en vélo. Mmh. Et ce qui veut dire que le coût et le ROI, je pense qu'on n'en a pas encore tellement parlé. Et dans toute économie, sur tout business model, à la fin, il y a un ROI et il y a un business model à définir. Ça fait 3 ans qu'on parle de l'IA. On est dans la phase un peu FOMO. Et je pense qu'on va rentrer maintenant dans la phase industrialisation. Combien ça me coûte? Combien ça rapporte? Et ça, c'est une phase qui est différente. Et le low cost sur ces sujets-là ne sera pas forcément idiot, parce que pour 80% des usages, on n'a pas besoin d'une Ferrari.
Donc, rotation à venir dans la tech encore supplémentaire, Geoffroy, c'est l'un que vous
parlez. Dans la tech, on le voit, c'est vrai que ce n'est pas forcément les gros hyperscalers qui sont forcément les gagnants tout de suite, on va dire, de la dynamique de l'IA. C'est aussi tous ceux qui participent à cette chaîne, à la production, et notamment tout le secteur des semi-conducteurs. Qui est un secteur assez intéressant en particulier. On voit bien qu'il y a une demande assez forte aussi sur tout ce qui est puce, mémoire, etc. Donc c'est pas forcément simplement les gros hyperscalers. Il y a une dynamique qui est forte. Comme ça a été dit, je partage le point, c'est vrai qu'il y a eu toute cette partie un petit peu FOMO, donc la peur de rater le wagon qui reste là. Et aussi la fameuse thématique TINA aussi, hein, donc il n'y a pas forcément d'alternative aujourd'hui à aller sur d'autres types d'actifs qui peuvent fournir des espérances en termes de rendement, de performance plus élevé que le secteur de la technologie. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les changements qu'on peut voir sur ce qu'on a évoqué tout à l'heure en termes de politique de banque centrale, en termes de risques géopolitiques, on peut peut-être revenir sur des choses un peu plus cycliques, sur un peu plus de choses fondamentales, et élargir un petit peu le spectre des investissements à d'autres secteurs.
Et alors SpaceX recule là. Aujourd'hui, c'est une journée historique. Pour la première fois de son histoire en bourse, SpaceX est en baisse. Moins 4%, ça fait tout bizarre. Hein. Après 3 hausses d'affilée, on a gagné en 3 séances 50% sur SpaceX. Aujourd'hui, une baisse. Pourtant, on avait parlé d'un rouleau compresseur à la hausse, d'un tapis roulant qui devait... l'architecture financière de cette introduction devait faire que ça devait monter quasi en ligne droite pendant quelques semaines, avec les fonds indiciels qui prendraient bientôt le relais. Bon, la baisse du jour, elle n'est que de 4%, on est d'accord, elle est normale, elle est là, après plus 50, c'est rien du tout. Mais voilà, comment vous regardez la façon dont tout ça se passe?
Vous avez quand même 100 milliards, hein, les 4%.
Moins 4%, vous achetez un peu de SpaceX là, moins 4%.
Le sujet, c'est assez drôle parce que en fait, ça polarise un peu. On regarde sur Twitter, enfin sur X, les sujets, c'est assez fascinant en fait. C'est quasiment religieux en fait. Parce que si t'es pas pour SpaceX, t'es rétrograde. La réalité, c'est pour les gens qui nous voient et qui nous écoutent, se rappeler un truc. La valeur, c'est pas parce qu'on dit qu'une société est chère qu'elle est mauvaise. Et que la valorisation d'une société en théorie financière, c'est la somme de ses cash flows actualisés. Et donc, à ça, il y a deux éléments. Il y a la partie cash flow, rentabilité, et la partie temps, parce qu'il faut le ramener à aujourd'hui. Elon Musk s'est pas souvent trompé. Le seul truc où il a pu se tromper à chaque fois, c'est sur le timing. Et à partir du moment où SpaceX est coté, elle rentre dans un truc assez impitoyable qui est la bourse et les publications. Et que quand on a une valorisation de 2500 milliards, il y a des attentes énormes. Elles étaient déjà énormes à 1700 milliards, vous allez me dire, pour une boîte de 19 milliards de chiffre d'affaires l'an dernier. Et c'est que maintenant, il va falloir la justifier. Ça ne veut pas dire qu'il n'y arrivera pas. Ça veut dire que le temps, va jouer un moment contre lui, sachant que sur les différents métiers, donc il y a la partie infrastructure IA, ça revient à mon point de tout à l'heure, qui est de dire bah, maintenant le business model de tout ça, il n'est pas encore clair. Donc voilà, donc on va voir combien de temps ça va mettre et la rentabilité tout ça. Sur l'espace, bah c'est pareil, les business, enfin les data centers dans l'espace, ils iront, il y a assez peu de doutes là-dessus. Mais quand et quand de façon industrielle. Donc en fait, ça a été pricé pour la perfection sur un business model inédit qui est totalement inconnu. Donc je dis, les gens qui achètent, qui ont acheté, étaient extrêmement optimistes. Alors être optimiste, c'est être heureux, donc je les envie beaucoup. Mais en bourse, il y a toujours un moment où on se demande si on a bien fait. Et tout, enfin l'histoire est faite. Regardez l'hydrogène, regardez toutes les nouvelles technologies. Il y a une phase où il y a la période où en mauvais français on dit show me the money. Et je pense qu'on va y arriver à un moment ou un autre.
SpaceX à moins 4, vraiment 30 secondes, Geoffroy.
Oui, vraiment très très vite. Ce qui est intéressant, c'est de voir que ça baisse. Alors que c'est vrai qu'il y a quand même des clauses pour ne pas vendre pour les acheteurs qui sont venus sur l'introduction en bourse, et notamment sur les particuliers américains qui ont été alloués à plus de 30%. Hein, donc c'est surtout les particuliers qui ont pu souscrire. Et on sait que les particuliers, normalement, ne doivent pas revendre avant la fin du mois. Donc voilà, il y a des clauses qui seront intéressantes à suivre, et une ouverture notamment à certains marchés, certains indices de la valeur SpaceX.
Ça baisse quand même.
Il va arriver.
Ouais. Merci à tous les deux. On reparlera de SpaceX dans un instant. On n'a pas le temps sur la data room. J'en suis navré. Elle était liée à SpaceX. Hein, le marché adressable de SpaceX est annoncé par SpaceX.
Dans leur prospectus, leur marché adressable, c'est un quart du PIB mondial. Donc ils sont assez ambitieux dans leur vision de leur marché adressable.
Ouais. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Sébastien Lalevé, Montpensier Bevel, Geoffroy Lenoir pour Ophi Investel.